Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous sommes réunis en cette église de Grust pour honorer la figure de Saint Martin, nous entendons le Seigneur dans l'Évangile nous proposer cette parabole. Il nous présente 10 jeunes filles invitées à la célébration des noces. Elles font partie du cortège de l'épouse et elles vont devoir attendre. Pour pouvoir approfondir ce que le Seigneur veut nous enseigner en cette parabole, il nous faut tout d'abord comprendre ce qu'était le mariage dans la tradition juive à l'époque de notre Seigneur Jésus le Christ. Pour nous, lorsque nous nous marions et que nous faisions de nombreux enfants, jadis donc, et nous en paierons les prix dans les années qui viennent, eh bien, il y avait les fiançailles et ensuite la célébration du mariage et après le mariage, la vie commune. Dans la tradition juive, le mariage se passe en deux temps. Le mariage va tout d'abord être contracté entre l'époux et l'épouse, mais l'époux promet au père de la mariée un certain nombre de biens qu'il va devoir prendre le temps de rassembler. Il n'y a pas de banque pour avancer la somme d'argent. Il va promettre, par exemple, tant de têtes de bétail, il va promettre telle somme d'argent, peut-être tel bijou précieux à offrir à son épouse. Et le mariage est donc contracté. Ils sont mariés, mais l'heure n'est pas encore venue d'emporter l'épouse pour mener la vie commune et consommer l'union. L'époux va donc devoir s'atteler à rassembler tout ce qu'il a promis lors du contrat de ce mariage. Et il devra venir chercher l'épouse de nuit, mais sans que l'on connaisse ni le jour ni l'heure précise, où l'époux viendra chercher sa promise. D'où le cortège de la mariée que le Seigneur prend en exemple, qui est là pour attendre le retour de l'époux, manifester l'arrivée de l'époux afin de vite préparer la promise. Il l'emportera de nuit dans cette maison commune et là, le mariage sera consommé. Lorsque nous avons cela en tête, nous pouvons comprendre davantage la parabole que le Seigneur nous propose. Il nous parle de noces et il a coutume dans la tradition de l'Église de présenter son œuvre de rédemption. Il est venu nous sauver, nous racheter comme des noces. Il est l'époux et nous tous, membres du genre humain, sommes l'épouse. L'épouse, c'est donc l'image de l'Église, peuple de baptisés que le Seigneur rassemble de toutes les nations pour, de cette terre, nous faire parvenir à la vie éternelle. La parabole a commencé. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles. Il y a donc ces jeunes filles qui ont apporté, bien sûr, leur lampe à huile pour pouvoir éclairer, bien vérifier qu'il s'agit bien de l'époux et alors aller à la rencontre de l'époux pour faire venir la mariée. Il y a donc deux temps, vous l'aurez compris. Le Seigneur a offert sa vie sur le bois de la croix par amour pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous délivrer de la mort comme du mal qui défigure en nous l'image et la ressemblance d'avec Dieu avec laquelle nous avons été créés. Ceci est donc contracté, c'est la nouvelle alliance scellée en son sang dont la messe est la réactualisation permanente à travers le temps de cette bonté de Dieu qui nous offre sa vie. Et cette vie, nous la recevons dans la Sainte Communion où lui, le Seigneur mort et ressuscité, s'offre à nous et avec lui d'abondantes grâces pour aller à sa rencontre. L'âme chrétienne qui s'efforce d'attendre le retour du Christ en vivant de la rédemption est donc comparable à ces 10 jeunes filles qui non seulement tiennent leur lampe allumée au milieu de la nuit, mais ont en plus emporté de l'huile en réserve. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où l'époux viendra, mais comme il faut demeurer prêt au milieu de la nuit, il faut avoir apporté cette huile en réserve. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous qui vivons de sa rédemption, nous devons attendre son retour, là où nous serons tous réunis dans cette vie commune qui sera celle de la vie éternelle en paradis. Il y a ces 5 jeunes filles qui, elles, ont apporté leur lampe, tout enthousiastes, Ce sont les chrétiens de façade, les chrétiens qui n'ont que le peu d'huile qu'ils ont dans leur lampe, mais qui ne peuvent pas veiller dans le temps, car ils n'ont pas su accumuler en eux ces grâces. L'image de ces réserves d'huile, c'est tout d'abord notre prière quotidienne qui nous unit au bon Dieu. Nous rendons grâce pour la beauté, la somptuosité de cette création qui nous dit déjà de quel amour nous sommes aimés. Nous rendons grâce pour le bien que nous avons autour de nous, chacun des membres de nos familles. Dans cette prière, nous intercédons jour et nuit pour les malades, tous ceux dont nous savons qui traversent des épreuves ou qui sont désespérés. Nous prions également le Seigneur en ayant des réserves d'huile pour nos fidèles défunts, afin qu'ils reposent dans la paix. Voilà comment nous avons cette huile abondante en vivant du Seigneur, de chacun de ses sacrements, où il nous donne cette force d'avancer à sa rencontre. Ces jeunes filles qui, elles, ont de l'huile en réserve, cela pourrait nous étonner, répondent à ces jeunes filles non prévoyantes, « Nous ne pouvons pas vous donner notre huile, cela ne serait pas suffisant. » Il nous faut comprendre ce qu'était une lampe à huile à cette époque pour comprendre l'acuité de cette comparaison. Il faut un certain nombre d'huile dans la lampe pour que la mèche puisse véritablement brûler. Il y a un niveau en dessous duquel nous ne pourrons pas rallumer la lampe. Prenons un exemple plus concret, plus contemporain. Une lampe électrique, pour la faire fonctionner, il faudrait 4 piles. Nous aurions beau, par charité chrétienne, donner 2 piles à notre voisin. Aucune des 2 lampes ne pourrait s'allumer, puisque pour qu'elle fonctionne, il en faut 4. Eh bien, voilà ce que ces jeunes filles disent aux non-prévoyantes. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez donc chez les marchands de nuit, bon courage, afin de pouvoir être présentes au moment de l'arrivée de l'époux. En ce mois de novembre, où avec toute l'Église, nous prions plus particulièrement pour nos fidèles défunts, nous prions, nous qui sommes membres de l'Église ici-bas sur la terre, pour toutes ces âmes qui ont déjà passé leur Pâques, ce passage de cette terre, à la gloire du ciel. Le 1er novembre a commencé en tournant nos regards vers le cortège des saints, ceux qui ont été jugés dignes d'entrer immédiatement après leur mort en âme, dans la vie éternelle du paradis. Ces saints, parvenus à la gloire du ciel, intercèdent pour nous, ici-bas, sur la terre, au milieu de nos épreuves, comme le fait saint Martin en cette heure que nous honorons. Il a, dans ses innombrables missions, charge de veiller sur vous, ici, dans ce village de Grust, si tant est, bien sûr, que nous l'invoquions dans nos difficultés. Nos aïeux ici à Grust avaient une grande dévotion envers Sainte-Anne qui a su manifester en des temps bien troubles, et nous en faisons toujours mémoire chaque été auprès de sa chapelle que nos aïeux dans la foi ont édifiée pour la remercier de cette protection et bien qu'elle avait su assurer aux habitants de Grust. Les saints sont là pour intercéder pour nous. Faut-il encore que nous leur demandions cette aide comme des enfants s'adressent à leurs frères ou sœurs aînés. C'était ça le 1er novembre, jour de la Toussaint, où nous nous réjouissons de savoir un certain nombre d'élus parvenus à la gloire du ciel. Mais à partir du 2 novembre, notre prière ici-bas sur la terre s'est portée sur toutes ces âmes en purgatoire, toutes ces âmes qui n'ont pas eu d'huile en réserve, que le Seigneur n'envoie pas à travers les peines de l'enfer. Mais le Seigneur a bien dit, quand ces jeunes filles sont revenues frapper à la porte, « Je ne vous connais pas ». Voilà le risque que nous encourons à ne pas vivre notre vie chrétienne pleinement, c'est que non seulement nous finissons par ne plus connaître le bon Dieu, mais celui-ci non plus ne nous reconnaîtra pas comme étant membre des siens. Voilà pourquoi la pratique religieuse est importante, et bien pour que le Seigneur puisse abonder en nous avec des grâces immenses pour nous aider à aller à sa rencontre, pour devenir meilleurs. Saint Martin, le grand évêque, a commencé dans une vie païenne, dans sa Hongrie natale. Sa famille, et son père en particulier, étaient engagés auprès de l'armée de l'Empire romain. Le jeune Martin, dont le nom signifiait « voué à Mars », c'est-à-dire le dieu de la guerre dans la tradition romaine, a été mis à l'école et a appris à découvrir la foi chrétienne. Et il n'a qu'un désir, le jeune et petit Martin, eh bien, c'est d'arrêter le culte des idoles pour pour en venir au culte véritable de notre Seigneur Jésus le Christ. Il a alors 10 ans. Il attendra son émancipation pour pouvoir être baptisé et devenir chrétien. L'épisode le plus fameux que vous connaissez peut-être, c'est celui de Saint Martin, soldat, qui arrive dans la ville d'Amiens un soir de février, il faisait donc très froid, et lui, dont la foi lui apprend à reconnaître à travers les pauvretés du quotidien le Seigneur souffrant et crucifié, voit ce pauvre qui est en train de mourir, transi de froid. Et Martin, d'enlever sa cape, d'en tailler la doublure, la cape appartient à l'Empire romain, il ne s'agirait pas de voler, mais il s'agit de donner ce qui lui appartient, la doublure de sa cape, pour en couvrir ce pauvre. Et quelque temps après, Martin aura cette apparition du Seigneur ressuscité pour lui dire « Martin, tu m'as vêtu comme un pauvre ». Et voilà que Martin, en reconnaissant dans cette pauvreté le Seigneur, ne s'y était pas trompé. Cet épisode a profondément marqué toute notre civilisation française, puisque nos familles royales ont pris pour nom de famille Capet, du nom de la petite cape de Saint-Martin. Saint-Martin, son culte s'est répandu partout, en Gaule, en Italie, en Espagne. Beaucoup, dont moi le premier, portent son nom comme nom de famille, ou un grand nombre de localités l'ont sous son patronage, comme Grus, ou portent même ce nom pour leur village. Eh bien, Saint-Martin a su manifester un grand élan de charité. Lorsqu'il quitte sa vie de légionnaire romain, il veut se consacrer à Dieu seul. Il n'est pas digne du sacerdoce parce qu'il a été un homme d'armes et donc du coup, il va voir le grand Hilaire de Poitiers, le grand docteur, et il va fonder le premier monastère à côté de la Loire, à Ligugé, qui porte aujourd'hui son nom, Saint-Martin de Ligugé. Il va vivre là 10 ans d'une vie d'ermite, seul, puis quelques compagnons viendront le rejoindre pour vivre cette vie ne s'intéressant alors qu'à Dieu seul. C'est 100 ans plus tard que Saint Savin, disciple de Saint Martin dans cette même abbaye, viendra à Poitiers-Ferré pour vivre lui aussi cette vie érémitique sur cette abbaye de Saint Savin dont nous vénérons toujours la dépouille du saint. Saint Martin, dont la grande charité était connue de tout son peuple, lorsque meurt l'évêque de Tours, voilà que les gens de Tours vont chercher Martin, dont ils connaissent le grand cœur, dont ils connaissent également la finesse dans la prédication, pour qu'il devienne évêque de la ville de Tours. Alors, eh bien, il s'attelle à instruire les fidèles, les instruire de foi, d'espérance, mais tout autant de cette vie de charité qu'il avait caractérisée. Et une fois qu'il s'est consacré à rendre la ville de Tours plus chrétienne, voilà qu'il devient l'apôtre infatigable de nos campagnes. Eh bien, nous rendons grâce, car il s'est éteint un 11 novembre. Et au moment de sa mort, voilà qu'alors qu'il y avait déjà les premiers froids de notre mois de novembre, l'été de la Saint-Martin s'était alors instauré pendant 2 mois. Eh bien, nous rendons grâce pour cette vie donnée, parce que Saint-Martin a su mettre de l'huile en réserve pour lui-même, mais communiquer également cette huile en réserve pour que nous tenions, dans les temps troublés de notre temps, nos lampes allumées. Le Seigneur attend de nous des âmes qui veuillent bien le recevoir, qui veulent bien, eh bien communiquer avec lui dans la prière, afin qu'il puisse nous aider à veiller et à nous tenir prêts, car nul d'entre nous ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra dans la gloire. Nul d'entre nous ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur nous rappellera à lui. La seule impératif qu'il nous dit, c'est de demeurer prêt et de veiller dans la prière. Puisse Saint Martin, puisse la bienheureuse Vierge Marie ou encore Sainte Anne, eh bien, veiller sur nous, fortifier notre foi, notre espérance et notre charité. Ainsi soit-il.